Bonjour à tous et à toutes qui viennent d'allumer leur radio. Que vous soyez confortablement assis, chez vous ou en voiture, j'espère que vous apprécierez cette nouvelle émission qui s'intitule « Sur les traces du mythe grec ». Dans cette émission mensuelle, je vous présenterai certains aspects de la mythologie grecque. Certains d'entre vous reconnaîtront des mythes, des héros ou des dieux et d'autres pourront ainsi les découvrir. Je serai votre présentateur, je m'appelle Marvin et j'ai 15 ans. Passionné par la période de l'Antiquité, j'espère bien vous transmettre cette passion et vous faire partager les histoires et mythes de ma civilisation favorite. Alors c'est parti! Nous allons relater la généalogie de la mythologie grecque pour en arriver aux dieux et déesses de la mythologie qui nous intéressent particulièrement, avec les héros et leurs aventures. Mais nous allons d'abord commencer par le commencement des choses. Saviez-vous qu'au début, il n'y avait que le chaos ? Mais attendez une seconde, vous me direz. Comment se l'imaginer ? Eh bien, comme une infinie de matière qui ne possédait pas de substance physique, une masse amorphe où aucune lumière ne subsistait, car plongée dans les ténèbres éternelles. En des temps immémoriaux où ni la terre, ni le ciel, ni rien de ce qui nous entoure n'existait. Puis, un jour, naquirent du chaos cinq divinités, que l'on appelle des divinités primordiales, car ce sont les premières entités à avoir surgi du chaos. Selon les croyances de l'Antiquité et des grands philosophes comme Hésiode, qui ont relaté la création du monde, ce sont ces cinq divinités qui ont permis à l'histoire de s'écrire. Elles se prénomment Gaïa, Nyx, Erebe, Tartare, et Eros. Les connaissez-vous ? Bon. La première, issue du chaos, fut la Terre, une assise sûre pour tous les êtres vivants. Elle fut personnifiée par Gaïa. La nature et la végétation se mirent à vivre. La Terre où nous marchons prit alors forme, incarnée par cette déesse, souvent décrite d'ailleurs comme une femme représentant la mère nature, la terre que nous connaissons se mit à exister. Elle donnera naissance, seule, à son égal, un être qui devait la recouvrir, le ciel étoilé nommé Uranos. Puis vint le tour des hautes montagnes, personnifiées par Urea, et Pontos, la représentation masculine de la mer inféconde et harmonieuse. Donc, pour résumer, la terre, la mer et les montagnes apparurent. La seconde divinité à être sortie du chaos est Eros. Il faut savoir que Eros n'a pas de forme anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de corps, il est surtout symbolique. Il représente le désir amoureux qui unifie les opposés, c'est l'expression même de l'amour qui a permis aux autres divinités d'avoir une descendance. Vient alors une troisième divinité, Nyx, qui est la divinité de la nuit. Comme Gaïa, elle eut seule plusieurs enfants, dont Eris, l'incarnation de la discorde, Thanatos, celle de la mort, Némésis, celle de la vengeance et de la justice divine, ainsi qu'une vingtaine d'autres divinités et de monstres. La quatrième divinité primordiale à avoir vu le jour est Térèbe. C'est lui qui personnifie les ténèbres et l'obscurité des enfers. Alors minute, les enfers, pour être sûr que tout le monde le sache, déjà on dit les enfers et non l'enfer, car selon les récits et des mythes et des légendes, elles étaient séparées en trois lieux distincts. Et ensuite, il s'agit dans la mythologie grecque du lieu où vont tous les morts, et pas seulement les âmes à damnés, comme dans certaines religions, telle la religion catholique par exemple. L'endroit où ceux qui avaient commis des fautes graves, allant à l'encontre des lois divines durant leur vie et qui devaient subir pour cela une damnation éternelle, était le Tartare, dont je vais vous parler juste après. Mais je précise, c'est le lieu dont je parle, la substance physique de la divinité, comme la terre pour Gaïa. Ensuite, pour ceux qui ne s'étaient ni démarqués dans le bien ni dans le mal, leurs ombres flottaient patiemment, sans but, sans mémoire précise de leur vie d'avant. Ils étaient là, dans le pré de la Sodelle, attendant pour l'éternité. Enfin, pour les héros, existaient les Champs-Élysées, l'idée du paradis pour les anciens Grecs, où ils passaient l'éternité à savourer leurs exploits passés. En bref, les anciens Grecs considéraient le destin des âmes selon les mérites et démérites qu'elles ont eus lors de leur vie. Certains, ensuite, croyaient à un cycle de renaissance, mais je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Pour en revenir à l'Erebe, donc, il est plus considéré comme un lieu qu'une divinité, même s'il engendre cependant avec Nyx, Aether, le ciel supérieur où vivent les dieux, Héméra, la déesse du jour, et Charon, le passeur des morts. Pour que vous puissiez situer ce dernier, Charon, c'est celui qui faisait traverser les fleuves des enfers aux âmes à bord de sa barque en échange d'une pièce, l'obol. Naquit enfin Tartare, la cinquième des divinités issues du chaos. Il représente l'abîme éternel, un gouffre de ténèbres, le lieu le plus dangereux, le plus profond des enfers. Il aura, même s'il s'agit également d'un lieu avant tout, une descendance avec Gaïa, les géants, ainsi que Typhon, le père des plus grands monstres que peut compter la mythologie grecque. Maintenant que nous avons vu les cinq divinités primordiales, nous allons passer à la seconde génération de dieux, les dieux uranéens, aussi appelés les titans et les titanides. On en considère 6 hommes et 6 femmes. Les titans sont nés suite à l'union de la terre, mer et du ciel, Gaïa et son fils Uranos. Ils se prénommaient Coéos, Phoeb, Hyperion, Théa, Japé, Océan, Tétis, Cryos, Eurybié, Mnemzim, Chronos et Rhea. Nous les verrons après, juste une courte pause musicale.
Thank you.
Nous voilà de retour. Alors, avant de commencer à vous raconter leur histoire, il faut savoir qu'ils n'avaient pas les mêmes règles morales que nous. Comme nous allons le voir après, ils vont avoir des enfants entre frères et sœurs pour la plupart. Ainsi, Coeos et Phoeb, l'intelligence et la lumière, eurent comme enfants Astérias et Leto. Astérias, l'une de leurs deux filles, furent courtisées par Zeus, le dieu du ciel et le roi des dieux olympiens, dont je vais vous parler en détail juste après les titans. Alors reprenons. Zeus ne laissait Astérias qu'un court répit entre chaque tentative de séduction, si bien qu'un jour, elle décida de se transformer en caille pour lui échapper et tomba dans la mer. Depuis lors existe l'île d'Ortygie, l'île aux cailles. Elle aura eu une fille, Hécate, qui est la déesse de la magie, des enchantements, des carrefours et des ombres, qui réapparaîtra dans certains mythes que je vous parlerai dans d'autres émissions. Quant à sa sœur Leto, elle connaîtra un terrible sort dû à la colère d'Héra, la reine des dieux et l'épouse de Zeus, qui, folle de la jalousie, s'amusait à réduire en cendres toutes les conquêtes de son cher époux. Et croyez-moi, on en compte des dizaines. Alors oui, j'en reviens à Leto. Elle, par rapport à sa sœur, a eu une liaison avec Zeus, et de leur union naquirent deux des principaux dieux olympiens, Artémis et Apollon, mais j'y reviendrai dans la troisième branche de la mythologie grecque, de leur arbre généalogique. Quant à Hyperion et Théa, ils donnèrent naissance à Hélios, le soleil, qui eut pour descendance Circé et Médée, deux des plus grandes enchanteresses que l'on retrouve dans les légendes. Ils eurent aussi Sélénée, la lune, et Eos, les aurores. Eos, lui, eut avec Astraeos trois fils, Zéphyr, le vent de l'est, Notos, le vent du sud, et Boré, le vent du nord. Ah oui, j'oubliais, pour que vous puissiez le savoir, Sélénée et Hélios représentent les formes physiques du soleil et de la lune, alors que ce sont Artémis et Apollon qui symbolisent leurs qualités propres. Vient après l'union entre Japé et Climénée, une océanide, qui aurait donné naissance à Atlas, Ménoétios, Prométhée et Épiméthée. Alors maintenant, je vais vous raconter une certaine histoire, celle de la première femme et du développement de la race humaine selon les croyances de la Grèce antique. Donc Prométhée est considéré comme le père de la race humaine. C'est lui, ou Zeus, selon certaines idéologies, qui aurait façonné les hommes à base d'argile et d'eau, avant de leur insuffler la vie. Prométhée, lui, leur donna certainement le feu, les arts et les techniques pour compenser les bêtises de son frère Épiméthée, celui qui réfléchit après, qui avait pour mission de partager les qualités entre les espèces animales et humaines. Au final, les animaux se sont retrouvés avec la quasi-intégralité de ces qualités, il n'en resta presque plus pour les humains, qui se retrouvèrent donc dépourvus. On aurait pu en rester là, mais non. Suite à une humiliation par Prométhée, Zeus, le dieu du ciel, décida de retirer le feu aux hommes, ce que ce dernier n'approuva pas bien sûr, si bien qu'il désobéit à Zeus et leur redonna. Mais attention aux conséquences, Zeus s'est alors mis en tête de se venger. Prométhée finit sur un rocher du Caucase, nu et enchaîné. Son châtiment éternel était de se faire dévorer le foie chaque nuit par un aigle. Or, étant immortel, son foie se reconstituait chaque nuit pour recommencer indéfiniment, jusqu'au jour où un héros grec, Héraclès, le délivre en échange de deux choses. D'une, Chiron, un centaure, donc un être avec un bas de cheval et un haut d'être humain, le fils de Cronos. Il dut se défaire de son immortalité pour pouvoir mourir et échapper à son fardeau, car en effet, il était emprisonné par une flèche d'Héraclès, sûrement une de celles trempées dans le sang de l'hydre de Lerne. Étant immortel, il ne pouvait ni mourir, ni guérir. Voilà pourquoi il le fit. Et enfin, de deux, il devait porter pour toujours une bague issue de ses chaînes et certaine une pierre de roche du Caucase, qui devint la première bague de l'humanité. Ensuite, pour se venger des hommes, Zeus envoya l'ordre à Héphaïstos, le dieu forgeron, de créer la première femme, Pandore, qui reçut un don de chaque Olympien. Il offrit à Épiméthée, qui, donc, sans tenir compte des avertissements de son frère Prométhée, l'épousa. Hermès amena en plus une jarre que Pandore, ayant obtenu la curiosité d'Athéna, la déesse de la sagesse, ne put s'empêcher d'ouvrir. C'est ainsi qu'elle répandit la famine, la vieillesse, la maladie, le vice, le travail ou encore la folie sur terre. Il demeura cependant l'espoir, Épice, qui devait redonner foi aux hommes en leur avenir, ce qui leur permit de continuer à vivre malgré tous ces maux. C'est ainsi que la première femme est apparue, que tous les maux se sont évadés du vase afin de tourmenter l'espèce humaine, et que depuis lors, cette jarre s'appelle la boîte de Pandore. Et puis ce n'est pas fini pour l'histoire de Prométhée. Il eut un fils, Deucalion, et Pimétée donc, et Pandore, sa femme, eurent une fille, Pyrrha. Ils furent les seuls survivants du déluge. Allez, un petit effort, ça ne vous rappelle pas l'Arche de Noé, par exemple? Ils repeuplèrent ainsi la Terre selon les conseils de Prométhée, qui depuis toutes ces histoires obtient le titre de bienfaiteur de l'humanité. Quant à Atlas, dont je vous ai parlé avant, il reçut le châtiment de supporter pour l'éternité la voûte céleste sur ses épaules, pour tant avoir vanté ses capacités et sa force, mais aussi car Cryos, Japé, Coéos et Hyperion, une fois déchus de leur pouvoir, finirent dans le Tartare. Or, ils étaient considérés comme les quatre piliers du ciel, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Alors voilà, ce fut lui qui endossa le lourd fardeau de porter la voûte céleste sur ses épaules, et ce pour l'éternité. Je vous retrouve maintenant dans quelques secondes, après une courte pause musicale.
Thank you.
Venons-en maintenant à Thémis, la justice qui eut avec Zeus les 3 heures, les saisons. Car avant, il n'en considérait que 3, l'hiver n'existant pas encore. Il n'existait que le printemps, l'été et l'automne. Je vous raconterai comment cette saison est apparue avec le personnage de Perséphone, la déesse des enfers. Que j'en revienne à mes moutons, alors oui, dans certains écrits, ce seraient aussi les parents des Moires, les tisseuses du destin. Vous les connaissez sûrement sous leur nom latin des parques, des femmes assez âgées, une qui filait le fil de la vie humaine, une qui est dévidée et la troisième qui coupait. Non ? Bon, eh bien vous le savez maintenant. Nous avons aussi Océan et Tétis. Eh bien, qu'en dire à part qu'ils vont engendrer pas moins de 6000 descendants, la moitié des fleuves et l'autre des océanides, donc Climénée, l'épouse de Japé. Et oui, 6000, ça en fait quantité d'enfants et beaucoup de noms à retenir. Pour ça aussi, je ne les approfondirai pas dans cette émission. Ensuite, nous avons Mnemosyne, la titanie de la mémoire. Elle va avoir avec Zeus 9 enfants, 9 filles. Qui c'est là peut-être ? Eh bien, ce sont les muses des arts, bien sûr. Chacune d'entre elles devait représenter un art majeur pour les anciens Grecs. Maintenant, passons à Crios et Eurybié. Ils ont eu 3 enfants. Persée, donc le père d'Hécate, dont la mère est Astraeos. Astraeos eut aussi les vents, Zéphyr, Boré et Notos. Et Paillas eut avec Styx, la déesse fluviale des enfers, sur qui jurent toujours les immortels. Et ils vont engendrer Zélos, Niké, Kratos et Bia, soit les valeurs du zèle, de la victoire, du pouvoir et de la force, des valeurs très importantes chez les anciens Grecs. Pour finir, on va parler de Cronos et de Rhea. Alors Cronos, vous savez peut-être qui c'est ? Un indice, son nom signifie celui qui a les idées fourbes. Il est avide de pouvoir, c'est celui qui va découper l'organe génital de son père Ouranos, sous commandement de Gaïa, sa propre mère, qui ne supportait plus parce qu'étant le maître de l'univers et ayant des enfants aussi laids que les premiers cyclopes, les géants à un seul œil, vous voyez de qui je parle tout de même, oui ? Et les hécatonchires, des êtres pourvus de 50 têtes et de 100 bras, et oui, c'est enfin un paquet. Ils les avaient tous jetés dans le tartare, se croyant vraiment le maître de l'univers. Et bref, voilà comment, en détrônant son père, Cronos a pu parvenir au pouvoir. Et maintenant, voici comment il s'est fait lui-même renverser par ses propres enfants. Et oui, ça doit être de famille. Alors Cronos, de peur que la malédiction proférée par son père, tu te feras détrôner et vaincre par tes propres enfants, il va refuser pendant un certain temps de se marier. Mais éternité pour les immortels, c'est long. Et du coup, voyant que ses frères et sœurs se mariaient un à un et avaient des enfants, donc que je vous ai énumérés avant, il va finalement décider de tenter sa chance avec sa sœur Rhea. Ils vont ainsi engendrer une magnifique petite fille, Hestia, qui va le faire tellement paniquer qu'il va aussitôt s'empresser de l'avaler tout rond. Puis vient Déméter, qui va aussi être avalé. Puis se fout le tour d'Héra, d'Hadès, de Poséidon, d'Héra, dont je vais vous parler après, avec la troisième branche de la généalogie des divinités de la mythologie grecque. Puis, à un moment, elle en eut marre, Rhea. Elle eut marre, tellement marre qu'elle accoucha de Zeus, le petit dernier, et elle le substitua à une roche avant que Cronos ne puisse se dévorer. Croyant avoir avalé Zeus, il ne se douta de rien. Et Rhea le confia alors à Adraste et Io, des nymphes qui l'élevèrent avec le lait de la chèvre Amaltée, dit-on, et aidés par les courettes des guerriers qui étaient nés de la terre-mère Gaïa, ils tapaient leurs lances sur leurs boucliers pour couvrir les pleurs, les cris de Zeus, et essayant ainsi d'éviter que Cronos ne découvre son existence. Seulement, arrivé à un certain âge, Zeus, pour libérer ses frères et sœurs, va s'arranger pour se rembaucher chez son père, donc en tant que serveur, alors que son père ne se doute même pas qu'il est son propre fils. Il va faire mettre un vomitif dans le verre de son père, si bien que d'un coup, tous ses frères et sœurs vont se retrouver à ses côtés à l'âge adulte. Et oui, étant immortels, ils se sont développés dans l'estomac de leur père, Cronos. Ils furent ainsi libérés et se retrouvèrent aux côtés de Zeus pour la première grande guerre des immortels qui va ainsi voir le jour. C'est ce que l'on appelle la Titanomachie, la guerre des titans, dont les dieux olympiens vont sortir victorieux. Cette guerre, je vous la raconterai dans une autre émission, alors patience. Bon, et bien maintenant, cette émission touche à son terme. Je vais donc vous laisser. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation. Alors, au mois prochain.